Bonjour tout le monde. Nous prendrons aujourd'hui Genèse 21, c'est page 14 pour ceux qui utilisent les Bibles qui sont au fond de l'église. Cela fait déjà 10 chapitres qu'on suit l'histoire d'Abraham. Et alors, j'aime pas dire ça, mais je pense qu'on arrive vraiment sur des chapitres vraiment clés. Et donc, j'espère vraiment que Dieu va vous parler au travers des chapitres qui arrivent. Et aujourd'hui, au travers de la naissance d'Isaac et des événements qui lui sont directement liés, nous allons en fait découvrir dans ce chapitre 21 une démonstration de la fidélité et de la bonté de Dieu par son engagement inconditionnel dans l'accomplissement de ses promesses. Et cette démonstration doit vraiment nous encourager à persévérer dans notre foi qui elle-même s'appuie sur des promesses déjà accomplies de notre Seigneur et d'autres encore à venir qui achèveront, je dirais, à jamais le plan de salut de Dieu pour sa création. Alors peut-être que s'il y en a parmi vous qui sont sceptiques sur ce plan de Dieu, qui ne se sentent pas concernés par la foi, eh bien, je les invite vraiment à rester quand même pour comprendre la grandeur de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses. Et en particulier celle de la naissance d'Abraham, qui a été faite il y a plus de, ou environ 4000 ans. Et c'est une promesse qui, aujourd'hui encore, au travers de l'actualité au Moyen-Orient, fait encore couler beaucoup d'encre. Donc, lisons Genèse 21. L'Éternel intervint en faveur de Sarah, comme il l'avait dit. Il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Sarah tomba enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au moment fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham appela Isaac le fils qui lui était né, que Sarah lui avait donné. Il circoncit son fils Isaac lorsqu'il fut âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance de son fils Isaac. Sarah dit: « Dieu m'a donné un sujet de rire et tous ceux qui l'apprendront riront de moi. » Elle ajouta: « Qui aurait osé dire à Abraham, Sarah allaitera des enfants ? Pourtant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. » L'enfant grandit et fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils que l'Égyptienne Agar avait donné à Abraham. Alors elle dit à Abraham: « Chasse cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Cette parole déplut beaucoup à Abraham, parce que c'était son fils. Cependant, Dieu dit à Abraham: « Que cela ne te déplaise pas à cause de l'enfant et de ton esclave. Quoi que te dise Sarah, écoute-la, car c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Je ferai aussi une nation du fils de l'esclave, car il est ta descendance. » Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et se perdit dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à la distance d'une portée d'arc, car elle se disait: « Je ne veux pas voir mourir mon enfant. » Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et se mit à pleurer tout haut. Dieu entendit les cris de l'enfant. L'ange de Dieu appela Agar depuis le ciel et lui dit: « Qu'as-tu, Agar ? N'aie pas peur, car Dieu a entendu les cris de l'enfant là où il se trouve. Lève-toi, relève l'enfant et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits. Elle alla remplir l'outre d'eau et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant. Celui-ci grandit, habita dans le désert et devint tireur à l'arc. Il s'installa dans le désert de Paran et sa mère prit pour lui une femme égyptienne. À cette époque-là, Abimélech, accompagné de Picol, le chef de son armée, dit à Abraham, « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant ici, au nom de Dieu, que tu ne me tromperas pas, ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu feras preuve envers moi et envers le pays où tu séjournes de la même bonté que moi envers toi. » Abraham dit, « Je le jurerai. » Il fit toutefois des reproches à Abimélec au sujet d'un puits dont les serviteurs d'Abimélec s'étaient emparés de force. Abimélec répondit, « J'ignore qui a fait cela. Tu ne m'en avais pas informé et moi-même, je n'entends parler qu'aujourd'hui. » Abraham prit des brebis et des œufs et des bœufs qu'il donna à Abimélec et ils conclurent tous les deux une alliance. Abraham mit à part 7 jeunes brebis. Abimélec dit à Abraham, « Qu'est-ce que ces 7 jeunes brebis que tu as mises à part ?» Il répondit, « Tu accepteras ces 7 brebis de ma part, afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. » C'est pourquoi on appelle cet endroit Beersheba, parce que c'est là qu'ils prêtèrent tous les deux serment. Ils conclurent donc une alliance à Beersheba, puis Abimélec se leva avec Picol, le chef de son armée, et ils retournèrent dans le pays des Philistins. Abraham planta des tamaris à Beersheba, et là il fit appel au nom de l'Éternel, le Dieu d'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Alors que se passe-t-il dans ce récit ? Et on va le voir, et je l'ai découpé en 4 parties. Tout d'abord, versets 1 à 8, l'auteur nous raconte l'accomplissement de la promesse de Dieu à Abraham. Il insiste sur la naissance d'Isaac jusqu'à son sevrage, en s'attardant sur l'obéissance d'Abraham, la joie retrouvée de Sarah, et le désir des deux de partager cette joie. Mais, deuxième partie, versets 9 à 14b, la situation se gâte. L'accomplissement de la promesse ravive le conflit entre Sarah et Agar du chapitre 16. Sarah ne veut pas partager l'héritage et elle demande à son mari de chasser Agar et Ismaël. À vue humaine, l'injustice de cette situation, Abraham s'exécute sur l'ordre de l'Éternel. Agar et Ismaël sont chassés dans le désert. Et en troisième partie, versets 14c à 21, il s'ensuit une nouvelle intervention de Dieu dans le désert pour sauver Agar et Ismaël alors qu'ils sont à l'article de la mort. Et pour finir, le récit revient sur Abraham qui reçoit la visite d'Abimélec et de son ministre des armées pour sceller une alliance de paix. Première partie, la naissance d'Isaac. Et nous allons voir que Dieu est fidèle et bon dans l'accomplissement de ses promesses. Il nous encourage à croire dans son plan. Alors ce récit commence par la naissance tant attendue d'Isaac. Ça fait 10 chapitres déjà. Le fils promis à Abraham et Sarah. Et par cet événement, l'Éternel intervint en faveur de Sarah, comme il l'avait dit, il accomplit pour elle ce qu'il avait promis au moment fixé dont Dieu lui avait parlé. La promesse de Dieu ne s'est pas accomplie au gré d'une circonstance hasardeuse. Elle s'est accomplie au moment précis qu'il avait prédit. Et si vous relisez l'histoire d'Abraham à partir du chapitre 12, vous vous émerveillerez de voir comment Dieu a préparé la naissance d'Isaac. C'est un immense miracle du Dieu créateur qui intervient au temps voulu et qui se déroule exactement comme Dieu l'a prévu, dans les moindres détails, c'est-à-dire selon sa parole. Dieu nous rappelle ainsi sa souveraineté sur le temps, sur les circonstances et sur les hommes. C'est les versets 2 à 5. Et ce miracle est bien plus que l'accomplissement de la promesse faite à Abraham et Sarah. Parce que d'Isaac va sortir Israël et puis finalement, bien plus tard, le Messie. La naissance d'Isaac est un acte majeur de l'œuvre de Dieu dans le déroulement de son plan de salut. Aujourd'hui, alors que nous réfléchissons à la naissance d'Isaac, nous nous souvenons de la fidélité de l'accomplissement de Dieu, de la fidélité de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses. Son timing ne correspond peut-être pas toujours au nôtre, ne correspond pas toujours à nos attentes, mais ses promesses s'accomplissent toujours. Dieu est vérité, il est fidèle. Toutes ses actions sont parfaites, toutes ses décisions sont justes. Notre Dieu est fidèle, il ne fait jamais le mal, il est toujours juste et droit. Deutéronome 32, verset 4. Et cela doit nous rassurer sur le fait que, comme Abraham et Sarah, nous pouvons lui faire confiance. Nous pouvons lui faire confiance pour nos vies et ses projets pour nous, parce qu'il est fidèle pour les accomplir, il l'a promis. Combien de fois, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, Dieu nous a sortis, libérés de situations compliquées alors que nous craignions le pire, après peut-être avoir manqué de foi ou d'obéissance. Combien de fois tu as retrouvé le sourire grâce à une intervention divine ? Intervention à laquelle tu ne t'attendais pas ou plus. Et c'est ce qui se passe à la naissance d'Isaac. Le texte ne va pas parler des sentiments et des réactions de Sarah et Abraham lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte. Ce que l'on peut dire, c'est que pendant ces 9 mois, ils se sont certainement émerveillés chaque jour de ce que Dieu rendait possible, ce qui était impossible à vue humaine, parce qu'ils avaient cru dans la promesse que leur avait fait l'Éternel. Abraham avait 100 ans, Sarah 90. C'est par la foi, nous dit la parole, c'est par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru en la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Hébreux 11, verset 11. Et le texte va s'attarder plus sur la suite de la naissance, la suite de l'accomplissement de la promesse. Et le premier élément qui est mis en évidence, l'obéissance d'Abraham au travers de deux actes qui montrent sa soumission à Dieu. Il appelle son fils Isaac comme Dieu lui avait demandé, puis il le circoncit comme Dieu l'a ordonné en signe de son alliance. Alors, je ne dis pas que l'accomplissement de la promesse déclenche l'obéissance et la soumission d'Abraham, mais il me semble que le fait de constater que les promesses de Dieu ne sont pas des paroles en l'air, à la différence peut-être des paroles des hommes, eh bien, ce fait doit nous pousser à une obéissance naturelle, à une obéissance par amour et non par intérêt ou par peur. Et ce constat ne peut se faire que si l'on entretient une relation de proximité avec Dieu. Et c'est ce que nous découvrons justement dans toute la vie d'Abraham, lorsque au début il va suivre Dieu, qu'il va adorer Dieu, qu'il va lui donner la dîme, il va le prier, il va intercéder, il va obéir. Sa foi, sa confiance en Dieu s'est construite progressivement, même s'il y a eu des hauts et des bas. Lorsque des promesses sont respectivement tenues, la confiance et l'obéissance deviennent naturelles. Mais dans le cas contraire, combien de situations douloureuses sont liées à une rupture d'alliance, à la rupture d'un contrat, d'un engagement entre deux ou plusieurs personnes. Mais Dieu, par sa fidélité, nous bénit dans l'accomplissement de ses promesses. Dans notre histoire, c'est le deuxième élément qui est mis en valeur. Sarah et Abraham sont dans la joie. L'accomplissement de la promesse nous fait découvrir dans un premier temps une nouvelle Sarah qui ne cherche plus à agir à la place de Dieu ou à mentir pour se défendre, mais elle reconnaît que ce miracle incroyable vient de Dieu. Versets 6 et 7, Sarah rit de bonheur de ce que Dieu lui a donné. Sarah laisse éclater sa joie tout autour d'elle grâce à l'intervention divine de la puissance de Dieu en qui elle a cru. Et pourtant, il n'y avait rien d'évident. Elle a dû tout quitter pour suivre son mari, pour un voyage difficile. Elle a dû subir une période de famine, un enlèvement pour être offert à Pharaon. Elle a connu la guerre, elle a essuyé un échec en croyant bien faire de donner sa servante à son mari. Puis elle a encore été enlevée par un roi qui voulait en faire sa femme. Elle avait de quoi baisser les bras, même si l'Éternel était intervenu fidèlement à chaque étape. Elle aurait pu se contenter de profiter de son enfant, de s'enfermer tranquille dans sa tente. Mais c'est le contraire qui se produit. Sarah veut partager cette nouvelle incroyable. Les promesses de Dieu mènent à la joie et à la célébration. Nous le voyons aussi chez Abraham. Verset 8, le sevrage d'un enfant, en fait, s'effectuait vers l'âge de 2 ou 3 ans à l'époque. Et c'est le temps où l'on estimait que l'enfant avait passé la période critique, qu'il était viable, que c'était plus un nourrisson. Et Abraham organise un grand festin pour célébrer cela. Il veut lui aussi partager sa joie et certainement publier haut et fort autour de lui comment l'Éternel a accompli sa promesse avec puissance dans une situation totalement désespérée à vue humaine. Il est fier de son Dieu, il n'a pas honte de le célébrer, de révéler sa grandeur. Et pour conclure sur cette naissance d'Isaac, n'oublions pas qu'une autre promesse de naissance miraculeuse s'est accomplie depuis. C'est celle du Fils de Dieu, celle de Jésus-Christ. Promesse qui est bien plus miraculeuse encore, car elle s'accomplit au travers d'une femme, mais d'une vierge qui n'avait pas connu d'homme. Elle est encore plus glorieuse que celle d'Isaac, car c'est par elle que Dieu a amené la solution au péché des hommes. Car malheureusement, la promesse faite à Abraham d'Isaac n'a pas réglé le problème du péché. Et nous le découvrons dans la deuxième partie, le conflit entre Agar et Sarah, c'est versets 9 à 14b. Et dans cette deuxième partie, nous allons voir que Dieu est souverain, que Dieu est juste dans l'accomplissement de ses promesses. Versets 9 et 10, le récit donc prend une nouvelle tournure. Fini l'allégresse de la naissance d'Isaac. Un conflit surgit lorsque Sarah se rend compte qu'Ismaël se moque d'Isaac. Alors, elle décide tout simplement de virer Agar et de son enfant et de déshériter son enfant. Et Elle demande à Abraham de les chasser avec un mépris absolu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, elle ne les appelle même plus par leur prénom. Il y a désormais l'esclave et le fils de l'esclave. Et l'on comprend la réaction d'Abraham au verset 11 qui est très attristé. Alors, d'une part, à cause peut-être du comportement de sa femme qui se montre impitoyable, qui se montre intraitable par rapport à Agar et Ismaël, mais aussi à cause de la séparation que cela implique, séparation d'avec son premier fils, devoir l'abandonner. Je ne sais pas si vous imaginez quelle douleur c'est pour un père. Mais Dieu, une nouvelle fois, intervient, verset 12, et ne laisse pas le choix à Abraham. Que cela ne te déplaise, que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante, accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Que Sarah manifeste un tel mépris, nous pouvons le comprendre, mais lorsque Dieu lui donne raison et qu'Abraham s'exécute sans discuter, sans intercéder comme il l'a fait pour Sodome et Gomorre, et qu'il les chasse, il y a de quoi se poser des questions. Comment comprendre Dieu dans ce choix qui nous paraît injuste, priver Ismaël d'héritage, le condamner avec sa mort, avec sa mère, pardon, à une mort certaine dans le désert, même si Abraham leur donne un petit peu d'eau pour subsister quelque temps. La réponse à ce favoritisme, la réponse à cette injustice apparente se trouve dans le Nouveau Testament. Ça commence à Galates 3, 29. Paul précise que ceux qui appartiennent à Christ sont les héritiers légitimes de la promesse. Ils appartiennent à la descendance d'Abraham, sous-entendue celle engendrée selon la volonté de Dieu, celle engendrée par la foi obéissante d'Abraham et Sarah. Et puis, juste un petit peu plus loin, dans Galates 4, versets 22 à 26, il est écrit qu'Abraham a eu deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave est né par volonté humaine et celui de la femme libre est le fruit de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes représentent deux alliances. L'une vient du mont Sinaï et donne naissance à des esclaves, c'est Agar. En effet, Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui vit dans l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est elle qui est notre mère. À la lumière du Nouveau Testament, nous comprenons que cette décision de Dieu de chasser Agar et de priver Ismaël d'héritage a une valeur allégorique. C'est une image pour nous rappeler que ses promesses, son plan de salut pour l'homme pécheur ne s'applique qu'à une seule descendance, celle de ceux qui ont cru en son existence, celle de ceux qui ont cru en son autorité, en sa parole et pour nous, en son Fils Jésus-Christ. C'est ceux qui sont entrés dans l'alliance faite par Dieu avec Abraham, alliance uniquement basée sur la foi, alliance imagée par la Jérusalem d'en haut, celle qui a été libérée de l'esclavage du péché en opposition avec la Jérusalem d'en bas. Sarah représente cette alliance dans notre texte d'aujourd'hui. Les habitants de la Jérusalem d'en bas sont encore esclaves du péché parce qu'ils n'ont pas encore cru. Ils ne sont pas encore graciés. Ils sont sous la condamnation à mort de la loi qui révèle le péché. Et cette loi a été donnée à Moïse par Dieu lorsqu'il fit alliance avec le peuple d'Israël, justement au Sinaï. Agar représente cette alliance de ceux qui s'opposent à Dieu et logiquement, sa descendance est exclue de toute part à l'héritage de l'alliance représentée par Sarah. Or, cela semble sévère de la part de Dieu. Mais Dieu nous garantit ainsi que notre héritage ne sera pas corrompu par le péché. Il n'y a pas de place pour le péché dans l'alliance de Sarah parce que Dieu en a horreur. Ce choix de Dieu de choisir une descendance légitime nous rappelle aussi qu'il jugera sa création. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, Hébreux 9, verset 27. Dieu est souverain et juste dans l'accomplissement de ses promesses. Il garantit ainsi l'incorruptibilité de notre héritage. D'appartenir à cette descendance légitime nous oblige parfois à prendre des décisions difficiles, des décisions radicales pour ne pas laisser de place au péché en nous. Mais Dieu a promis de nous bénir. Un jour, nous le contemplerons face à face. L'espérance d'être un habitant de la Jérusalem céleste sera devenue une réalité. Alors, faisons tous nos efforts aujourd'hui pour nous affectionner de cette Jérusalem que nous ne pouvons pour le moment que contempler spirituellement dans la parole de Dieu, dans la prière, dans la communion fraternelle de l'Église de Jésus-Christ. Parce que c'est par lui que nous sommes déjà graciés pour le jugement qui aura lieu lors de son retour. Pour ceux d'entre vous qui continue à penser que Dieu est vraiment trop sévère avec Agar et Ismaël, je vous invite à écouter le point suivant, l'intervention de Dieu dans le désert. Et cette intervention va nous montrer que les promesses de Dieu sont remplies de compassion. Dieu s'intéresse à notre souffrance et il nous restaure. Abraham a obéi une nouvelle fois à Dieu. Il chasse Agar et son fils qui se trouve dans une situation dramatique. Ça se passe dans les versets 14c à 21. Et il se retrouve, Agar et Ismaël se retrouvent au fin fond du désert, sans eau, proche de la mort. Et au verset 16, Agar abandonne son enfant sous des arbrisseaux. Elle ne veut pas le voir mourir. Elle a perdu tout espoir. Et on peut penser qu'elle a certainement oublié la promesse d'une grande postérité au travers d'Ismaël que Dieu lui a pourtant déjà fait dans les mêmes circonstances. C'était dans Genèse 16. Elle n'y croit plus. Cette promesse aussi, Dieu l'a transmise à Abraham, nous l'avons vu au verset 13, comme pour lui dire « Ne t'inquiète pas, j'ai un plan pour Agar et son fils, je vais m'occuper d'eux au moment voulu. » Et Dieu, conformément à cette promesse qu'il avait faite à Agar et à Abraham, eh bien, Dieu entre en scène à nouveau dans le désert. Il manifeste sa compassion, il entend crier l'enfant et il répond au désespoir d'Agar. Dieu pourvoit alors à tous les besoins d'Agar et d'Ismaël nécessaires à leur survie, mais aussi à l'accomplissement de la promesse faite à Agar de faire d'Ismaël une grande nation, malgré des circonstances bien défavorables. Dieu n'a pas délaissé Ismaël. Verset 20. Dieu était avec le garçon et il grandit et habita dans le désert et devint archer. Ce verset met en évidence l'engagement de Dieu à accomplir ses promesses, quelles que soient les circonstances. Et si l'on considère ce passage comme une nouvelle métaphore, quelle image de l'amour de Dieu, quelle démonstration de sa sollicitude envers sa création et son désir que tous les hommes soient sauvés, que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, verset 4. Remarquable aussi le moment choisi pour intervenir par Dieu, quand Agar baisse la garde, abandonne de s'en sortir par elle-même et se met à pleurer. C'est ce moment que Dieu a choisi pour manifester sa grâce, que nous puissions nous en souvenir dans nos épreuves, dans nos conflits, dans nos défaites, que nous puissions vraiment nous souvenir de ce modèle d'intervention de Dieu. Au moment où nous reconnaissons avec humilité notre faiblesse, c'est cette attitude qui plaît à Dieu, qui lui fait nous dire « N'aie pas peur, je suis avec toi. » Que dire de l'apparition du puits en plein milieu du désert, verset 19. Puits qui certainement redonne espoir en la vie à Agar et Ismaël. Puits qui les sauve d'une mort certaine. Puits qui est comme une source d'où coulera la vie. Et il me semble ici difficile de ne pas se souvenir de l'histoire de la femme samaritaine dans l'évangile de Jean. Femme justement qui fait partie de la descendance d'Agar, à qui Jésus dit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et nous comprenons ainsi que par la foi en Jésus-Christ, nous pouvons changer d'alliance, nous pouvons changer de descendance. Il y a une issue de secours pour faire partie des fils d'Abraham, pour avoir droit à l'héritage, pour échapper à une mort éternelle. Échapper à une mort éternelle. Toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Genèse 12, verset 3. Dieu l'a promis, Dieu l'accomplit. Les promesses de Dieu sont remplies de compassion. Dieu s'intéresse à notre souffrance. Il ne nous abandonne pas. Il intervient et s'engage dans l'accomplissement de ses promesses. Après cette parenthèse du désert, le focus revient sur Abraham. C'est notre dernière partie. Et versets 22 à 32, l'alliance avec Abimélec. Et nous allons voir que l'accomplissement des promesses de Dieu manifeste sa puissance et engendre la paix. Dieu veut nous mettre en sécurité. Alors, quel est l'état d'esprit d'Abraham après avoir chassé Agar et Ismaël ? Alors, je ne suis pas sûr qu'il soit au beau fixe. Je vois plutôt un homme avec le moral dans les chaussettes. Même s'il a fait preuve de sagesse, d'obéissance, de confiance en la souveraineté de Dieu dans une situation conflictuelle, il a dû accepter de se séparer de son premier fils. Fils avec lequel il avait certainement tissé des liens forts, tant il l'avait attendu. Et je n'utilise pas, pour parler de cette séparation, je n'utilise pas le mot de sacrifice pour laisser à mon successeur de la semaine prochaine, pour le laisser en fait à mon successeur de la semaine prochaine qui commentera une nouvelle mise à l'épreuve de la foi d'Abraham, peut-être encore plus incroyable. Mais j'en dis pas plus. Abraham donc aspire certainement à ce moment-là à des encouragements, à du calme. Il n'a sûrement pas envie d'avoir à gérer un nouveau conflit. Et pourtant, il en a peut-être eu peur en voyant débarquer Abimélec avec son chef des armées. Verset 22, alors sans connaître les intentions d'Abimélec et son chef et son général, on peut imaginer le pire. Ils étaient certainement accompagnés par un régiment. Un roi ne se déplace pas seul. Il serait trop vulnérable. Mais immédiatement, Abraham est rassuré. La providence de Dieu fait qu'Abimélec est venu pour conclure une alliance de paix avec Abraham. Et la raison qui motive Abimélec s'avère être la démonstration de la puissance de Dieu à l'égard d'Abraham dans l'accomplissement de ses promesses. Il a vu comment Dieu agit puissamment pour Abraham. Il a compris qu'Abraham et les siens étaient au bénéfice des promesses de Dieu. Et il ne veut pas s'en faire un ennemi. Mais pour cela, Abimélec a besoin de pouvoir faire confiance à Abraham. Rappelez-vous, Abraham l'avait trompé en cachant qu'il était marié à Sarah. Situation et il lui rappelle, et situation certainement bien humiliante, lorsqu'en public, un non-croyant qui a reconnu notre appartenance au Seigneur vient nous montrer notre mensonge, vient révéler les traces du péché de notre ancienne nature que nous n'avons pas encore chassé. Lorsque Sarah demande à Abraham de chasser l'esclave et son fils, au verset 10, ne pouvons-nous pas faire un parallèle avec nos vies où Agar représenterait notre ancienne nature, notre chair corrompue que nous avons héritée indirectement d'Agar, chair dont on a du mal à se débarrasser, et Ismaël, représenterait les effets nauséabonds du péché. Effet chez Ismaël, entrevu dans Genèse 16, verset 12, Ismaël sera pareil à un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. Or, mes frères, mes sœurs, continuons à nous humilier devant Dieu pour s'attendre à son intervention dans nos vies. Combattons le péché qui, à l'image d'Ismaël, est aussi, verset 20 de notre texte, comme un archer qui tire ses flèches contre nous, mais à l'image aussi d'Abraham, verset 25, qui à son tour expose à Abimélec les méfaits de ces hommes autour des puits, soyons de ceux qui transmettent fidèlement le message de vérité de l'Évangile pour conduire les nations à la repentance et à la réconciliation. C'est ainsi qu'au travers de vies purifiés par l'accomplissement de la promesse de la naissance et de l'œuvre rédemptrice de Jésus, et de vie transformée par la promesse de la venue de son Esprit en nous, c'est ainsi que nous pourrons, comme Abraham, être des témoignages vivants de sa fidélité, de sa bonté, de sa justice, de sa souveraineté, de sa compassion à nos souffrances, de sa présence à nos côtés et de sa puissance. C'est ainsi que, comme Abraham et Abimélec, qui font alliance pour profiter d'une paix durable, nous pourrons goûter à la dernière promesse suggérée par le texte dans les versets 32 à 34, la promesse d'un royaume de paix éternel. Abraham plante des tamaris comme pour montrer qu'il s'installe durablement dans ce pays où Dieu, qui l'invoque d'ailleurs une nouvelle fois, l'a conduit et lui a garanti une postérité. Et ce Dieu nous dit le texte, est le Dieu d'éternité. Alors que chacun de nous puisse, par la foi dans les promesses déjà accomplies, se réjouir par avance de l'accomplissement des promesses encore à venir. Dieu est fidèle et bon, et sa fidélité durera toujours. Que toute la gloire lui en revienne. Amen. Prions. Père céleste, Dieu éternel, que tes plans sont merveilleux, que tes promesses sont belles. Comment ce matin ne pas te remercier pour ta bienveillance qui dure à jamais. Nous voulons vraiment te prier pour que tes promesses impactent, transforment nos vies, qu'elles soient un moteur de consolidation de notre foi, un moteur de notre espérance dans le retour de ton Fils, un moteur de de persévérance dans notre marche chrétienne, dans nos épreuves, mais aussi dans nos joies. Et nous te prions pour tout cela dans le nom de ton Fils Jésus, en qui s'accomplissent toutes tes promesses. Merci pour ta fidélité, ta bonté et ta présence auprès de nous par le Saint-Esprit. Amen.